Bonjour, c'est Bernard et je vous propose aujourd'hui une évasion au pays des livres en compagnie d'un éditeur. Il s'appelle Patrick Roy, c'est mon voisin. Et comme quoi, il n'y a pas que des évasions exotiques. Et ben voilà, on va boire un coup et causer un petit peu avec Patrick Roy.
Bien, c'est parti alors.
Allez, c'est parti.
C'est parti. Ben, il semblerait que nous soyons dans les Cévennes, dans le sud de la Lozère, près de Bar des Cévennes exactement. Il se trouve que c'est un endroit où j'ai atterri il y a un bon bout de temps, plus de 40 ans, un peu par hasard, mais bon. Et que j'ai posé mes valises, comme on dit, pour y faire des choses différentes. Et je suis un peu parti pour travailler dans la région, près de Montpellier. Mais le plus tôt possible, j'y suis revenu. Donc là, maintenant, j'y suis pour de bon, on va dire, jusqu'à la fin. Si jamais il y a une fin à quelque chose, j'y suis pour de bon. Et on verra bien comment ça se termine, cette histoire.
Parce que c'est une histoire.
C'est une histoire, ben oui. Évidemment, c'est une histoire de vie, parce que tu arrives ici, tu as des rêves de jeunesse, quelque part, un peu fou, un peu 68 ans, un peu... Et puis la vie se passe, tu fais des rencontres, tu fais des choses, et il se trouve que tardivement, en milieu de cette période, c'est-à-dire 20 ans grosso modo après avoir connu les Cévennes, je suis devenu éditeur.
C'est quoi ce métier ?
C'est un drôle de métier. C'est vraiment celui qui refuse les manuscrits, pour commencer. Okay. C'est son principal travail, de refuser les manuscrits.
De dire non.
De dire non, voilà, il faut savoir dire non. Parce qu'il y a tout le monde écrit. C'est curieux, mais enfin bon, à une époque où personne ne lit, tout le monde écrit, il y a un truc qui est bizarre. Non mais je caricature, évidemment. J'ai eu la chance de travailler dans une maison d'édition à Montpellier, donc, qui avait quand même une certaine renommée, et des gens qui avaient beaucoup d'exigences dans leur travail. Donc, je suis tombé là-dedans, pas tout à fait comme Obélix dans le bouillon de fluide magique, mais un peu quand même, parce que jusqu'à 40 ans, j'aurais jamais imaginé travailler dans l'édition. Et alors, voilà.
Ça consiste en quoi ?
Ben, ça consiste
le métier d'écrivain.
D'éditeur, oui. Justement, tu viens de faire un lapsus là, qui est assez significatif.
Est-ce qu'un éditeur est un écrivain frustré ?
On le dit souvent. On le dit souvent. C'est souvent le cas, effectivement. Il fait travailler les autres. Enfin, quelque part, il leur demande de faire ce que lui, peut-être, il n'arrive pas à faire, ou il n'ose pas, ou voilà. Et c'est vrai que c'est assez... C'est pas déplaisant d'aller susciter comme ça chez des écrivains, d'aller susciter des textes, des propos, enfin de demander qu'ils vous fassent des propositions. Bon, il y a un côté un peu assez excitant, voilà, je dirais, dans cette histoire-là. C'est quand même, il faut le dire, c'est un métier à risque, je veux dire, parce que quand on publie quelqu'un, on ne sait pas du tout si justement le public sera au rendez-vous. C'est vraiment la roulette, pas la roulette russe quand même, mais enfin c'est la loterie, disons.
Hein, c'est un pari.
C'est un pari, ouais, c'est un pari. Donc c'est soit réservé à des gens très riches qui peuvent investir sur un poulain dont le livre va marcher, soit, aujourd'hui la petite édition comme celle que je pratique, la petite édition, c'est une édition qui est soutenue par des institutions, par le CNL, le Centre National du Livre, par la région, il y a divers organismes comme ça qui soutiennent la petite édition. Sinon, effectivement, on aurait beaucoup de mal à continuer à travailler. Donc ça, je crois que c'est une donnée qui est qu'on masque un peu, parce que c'est l'aspect financier des choses, mais je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment un truc, c'est le nerf de la guerre. Hein. Voilà.
Comment s'appelle le...
Alors ma maison, en elle-même, s'appelle le Bousquet et la Barthe. C'est un endroit qui était situé, qui était une paroisse qui était située au sud de Bar-des-Cévennes, et qui a été, pendant 40 ans, curieusement, une commune, de 1790 à 1830, à peu près après la Révolution française, et qui a de nouveau été rattachée à Bar après 1830. Déjà, on rattachait les communes à d'autres plus grandes communes. On est complètement dans l'actualité.
C'est l'actualité.
Voilà.
Et c'est là que vous vivez.
Et c'est là que je vis, c'est là que je vis, que je travaille. Voilà.
Alors, je suis écrivain. J'ai écrit forcément un chef-d'œuvre. Et donc je viens vous le porter parce que ma voisine m'a dit que vous étiez éditeur.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ben je le lis, pour commencer.
Vous lisez tout ?
Oh ben oui, parce que de toute façon moi je suis pas assailli de... J'ai la chance d'être très caché, donc du coup pas très embêté.
Non mais au-delà de la quantité de manuscrits que vous pouvez recevoir...
Ah oui, je lis, oui.
Vous lisez de bout en bout tous les manuscrits, ou est-ce qu'au bout de la cinquième
non,
page...
Non, si par exemple je reçois un truc, mais on voit très bien dès les premières pages si on se sent capable de... ou si on a envie de publier ceci ou cela. Alors là, c'est très vite vu. Au bout de cinq pages...
Cinq, dix
pages, on sait. Ben, y a le style, il y a l'histoire, comment elle est racontée, il y a si ce sont des poèmes, la qualité des vers, entre guillemets. Ben, ça va. L'autre jour, j'ai reçu des haïkus. Bon, y a plein de gens qui s'occupent de haïkus. Ce sont des poèmes japonais, qui ont un certain nombre de pieds, etc. Bon,
ça obéit à des règles strictes.
Oui, ça obéit à des règles très strictes. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, ça n'avait strictement, pour le coup, aucun intérêt pour moi, parce que bon, la personne en question racontait des anecdotes de sa vie, mais qui ne... de sa vie quotidienne. Alors, on peut raconter sa vie quotidienne et être passionnant, mais là, c'était pas le cas. Du coup, j'ai dit non, je peux pas... Je peux pas publier ça. Donc, c'est éditeur, effectivement, c'est pour y revenir à ce métier, c'est quand même un métier où on peut dire non. Justement, on a la liberté de dire, bah, écoutez, votre travail m'intéresse pas. Après, on peut se tromper. On peut se tromper. On peut passer à côté d'un chef-d'œuvre. J'y crois pas beaucoup, personnellement. Mais bon, on peut.
Oui, mais enfin, tout le monde se rappelle que l'expérience... Cette fameuse lanterne qu'on porte dans le dos et qui ne fait qu'éclairer le chemin parcouru.
C'est joli.
Donc, l'expérience, ça ne peut révéler que ce que l'on a fait.
Oui.
Mais ça n'empêche pas d'avoir une bonne analyse des choses. Oui. Ce n'est pas parce que l'on fait quelque chose depuis peu de temps.
Oui, c'est vrai. Non, puis je...
Donc là, il n'y a pas un excès de modestie, là ?
Si, non,
la forme suprême de l'orgueil, c'est bien connu.
Bien sûr, mais... mais bon, disons que ça fait 22 ans que je fréquente ce milieu. Ça fait, disons, 7-8 ans maintenant que je me suis un peu lancé dans cette affaire-là. Et puis, sérieusement parlant... disons que ça me prend un peu plus de temps, j'ai construit un site, j'essaye de faire parler un petit peu plus de ces histoires-là. Ça fait 2 ans, donc c'est pour ça que je dis que bon, voilà, je ne suis pas un vieux briscard non plus, mais je ne suis pas non plus un nouveau-né. Voilà. Mais le projet, au départ, c'est de publier des choses entre... Allez, quand c'est de la poésie, si on en vend 300, on est content. Ou 500.
Oui, enfin, je ne sais pas si les grands éditeurs, comme on dit, en vendent tellement plus.
Ils ne font pas beaucoup mieux. Hein. En poésie, ils ne font pas beaucoup mieux. Mais voilà, si on vend un bouquin entre 500 et 1000 exemplaires, on est vraiment très satisfait aujourd'hui. Dans ce registre-là d'édition. Hein. Je ne m'appelle pas Gallimard ni Grasset. Je n'ai pas un réseau de distribution qui me permet de balancer dans 300 librairies. Donc voilà, je fais à mon échelle.
Est-ce que vous pourriez nous parler des livres en tant qu'objet.
Alors, c'est sûr qu'on attache... Alors, comme je viens de ce berceau Fata Morgana qui avait une exigence de qualité au niveau des papiers, au niveau de la typo, au niveau même des illustrations. Donc, c'est sûr que un livre, c'est aussi un objet. Donc, on a plaisir à l'ouvrir, on a plaisir à le découvrir. Donc, on attache de l'importance au choix du papier, enfin, la couverture, par exemple, au choix du papier intérieur. Moi, je vois des livres qui sont ni faits ni à faire, qui sont sur des papiers blancs, mat. Ça me fout ça me met très mal. Alors qu'on peut faire des très belles choses pour pas beaucoup plus cher. Je fais pas de la typo au sens ancien. Je travaille pas au plomb. Je travaille avec un imprimeur qui fait de l'offset ou du numérique. Mais on essaye d'avoir une belle police de caractère. On fait attention à la mise en page. Enfin, c'est quelque chose. On a envie que le travail soit fait. Voilà, de manière qui nous paraît professionnelle, pas faire du...
Esthétique.
Esthétique, voilà, exactement.
Est-ce qu'on peut lire n'importe quoi sur n'importe quoi? Je veux dire, sur n'importe quel support.
Ben non, justement, je crois qu'effectivement, un texte de qualité... Alors après, il faut s'entendre sur ce que c'est qu'un texte de qualité, mais enfin bref... d'un grand poète ou d'un grand écrivain reconnu, en poche c'est pratique parce que c'est pas cher, c'est à la portée de tout le monde, mais si on peut faire un effort et vendre, même si ça coûte deux fois plus cher, de faire un beau livre sans faire de la bibliophilie, mais si on peut faire un beau livre, pourquoi s'en empêcher, enfin, voilà. Donc moi, les livres que je fais, les livres ordinaires, ils coûtent pas si cher que ça, ils coûtent entre 10 et 12 euros ou 10 et 13 euros, ce qui est quand même encore raisonnable pour un livre entre 96 et 150 pages. Mais au moins, on a un travail soigné. Bon, je travaille avec un imprimeur, pour ne pas le citer, Gérard Baudarias, qui est à Montpellier, qui est un homme absolument merveilleux, qui a choisi de travailler avec des petits éditeurs, qui avait la possibilité de faire avec des grandes institutions, mais qui a laissé tomber, parce qu'il a envie de faire du bon travail, bon, à l'ancienne, c'est-à-dire comme un artisan, on va dire. Hein. Donc... moi, je préfère travailler comme ça. J'ai pas envie de faire non plus 10 livres par an. Si j'en fais 4, ah ben voilà, ça sera bien. Si j'en fais 5 l'année suivante, tant mieux. Mais j'ai pas l'ambition de... Bon, j'ai passé l'âge, d'ailleurs, d'avoir l'ambition de devenir un grand éditeur. Je me contenterai de ces quelques pierres posées là, sur le chemin. Hein, on va dire ça de cette manière-là. Et du coup, d'avoir des bonheurs de lecture, des découvertes comme ça qu'on fait... là, je vais publier au mois de juin un texte d'un monsieur qui habite à Saint-Jean-du-Gard, que j'ai rencontré tout à fait par hasard.
On peut dire son nom?
Oui, Gilles Delcuse, qui est un gars qui est venu me trouver au Festival du Livre à Florac l'année dernière. Il m'a confié son manuscrit et j'ai été emballé quasiment tout de suite. Donc voilà, ça arrive une fois en passant. Et du coup, j'ai eu envie de défendre cette histoire, voilà. Et puis comme ça, il y a d'autres propositions qui arrivent et on a envie de se lancer.
Est-ce que l'objet livre contribue à l'appréciation du contenu du livre?
Alors, je dirais oui et non, parce que je ne veux pas non plus m'embarquer, même si je fais des livres, ce qu'on appelle des livres d'artistes, c'est-à-dire des choses à très peu d'exemplaires, avec des peintures originales, etc., sur ce qu'on appelle un beau papier, en général c'est de l'arche, qui est réservé à des collectionneurs, on va dire, des amoureux, des bibliophiles. Bon, ça c'est quand même une catégorie un peu à part dans les lecteurs. J'ai lu Rimbaud et Lautréamont en poche quand j'avais 20 ans, 30 ans. Ça m'allait très bien. J'ai découvert Lautréamont. Et heureusement que le livre de poche existe, parce que je crois que ça permet à tout un chacun d'accéder au livre. Je veux dire, donc Je défends pas l'idée qu'il faut absolument qu'un livre coûte cher. Je préfère qu'un livre soit de bonne facture, c'est-à-dire qu'il ne se déchire pas quand on l'ouvre. Hein, ça, c'est... Parce qu'on a vu ça, il y avait des collections, je me rappelle quand j'étais gamin, une collection, pour ne pas la nommer, qui s'appelait Pocket, je crois, mais on ouvrait ça, c'était lamentable. Au bout de deux fois, le bouquin, il partait en morceaux. Bon, ça, c'est pas un travail que j'ai envie de défendre. Nous, notre façon de faire, enfin, avec les gens avec qui je travaille, c'est des cahiers de 16 pages qui sont soit collés, soit cousus, ou les deux, et qui se tiennent, bon, sur des papiers aussi de bonne qualité. Bon, avec une impression aussi de bonne qualité. Donc ça, ça me paraît le minimum. Mais on voit effectivement aujourd'hui beaucoup de choses, vraiment des maquettes qui sont ni fait ni à faire, hein, comme on dit. C'est assez lamentable.
De même qu'en musique, on peut apprécier
oui.
un chef-d'œuvre sur un outil qui est, on va dire, de moyen ou bas de gamme, parce que on va faire l'impasse sur la qualité sonore et on va essayer de se concentrer sur le contenu de l'œuvre.
Oui.
Mais on va dire que c'est encore mieux si on peut
bah, tant qu'à
allier
faire.
Les deux.
Voilà.
La qualité de l'objet voilà. et la qualité ouais. du texte.
Moi, je serais assez attaché à cette forme de travail. Voilà.
Donc c'est une quête, c'est une. C'est
oui,
une...
on va dans cette direction. On essaye de continuer une espèce de tradition hein, quelque part dans le livre de qualité. Je veux dire, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, il y a toujours eu des éditeurs il y en a moins maintenant, mais il y a toujours eu des éditeurs qui prenaient attention à tout ça, à tout. Et d'ailleurs, faut pas oublier que jusqu'au 19e siècle. On était souvent libraire, éditeur, imprimeur. Ces métiers-là n'en formaient quasiment qu'un seul. Donc il y avait une exigence, l'imprimeur il avait une exigence qu'on retrouvait évidemment de fait chez l'éditeur et par la suite chez le libraire. Donc ça faisait une espèce d'entité. Aujourd'hui ça s'est un peu distingué, mais voilà, on est. Alors, donc, quelque part, on est héritier de cette façon de travailler. On s'inscrit dans une espèce de tradition.
La tradition, est-ce qu'elle... Elle évolue, les supports évoluent
oui.
et
oui, les techniques évoluent.
Alors, est-ce que donc on peut lire avec le même plaisir, d'après vous, Baudelaire sur une édition de poche, une édition où le livre est à la hauteur de son contenu et sur une tablette numérique ?
Alors là, pas du tout. Ça, alors là, c'est niet, mais vraiment, je sais même pas comment. Alors, après, si on est né en 2010 et qu'on a connu que la tablette numérique, je ne sais pas comment ça va se passer. Les gamins qui sont toute la journée sur des écrans, finalement, qui n'auront connu que ça, le papier, finalement, ce sera peut-être secondaire pour eux, puisque déjà, l'ordinateur, il est rentré dans les écoles à une vitesse incroyable. Je veux pas présumer. Peut-être qu'on va devenir des dinosaures, hein, les producteurs de papier, les gens qui font du livre papier. Mais en tout cas, il y a encore, je dirais, une ou deux générations qui vont rester attachées à cette forme. Je vois mal que d'ici une trentaine d'années, à moins. Enfin, cela dit, les choses vont tellement vite qu'on peut se demander. Hein. Mais je vois mal qu'on puisse se passer du livre papier comme ça rapidement. Et le plaisir de lire Baudelaire sur une tablette numérique, honnêtement, il va falloir travailler. Il va falloir s'y coller, mais ça va pas être facile. Hein. problème. Mais bon, voilà, moi j'entends des gens dire comme ça, bah, c'est bien, moi je pars en vacances et au lieu de transporter 15 bouquins dans mes valises, alors, j'ai ma tablette.
C'est aussi une réalité.
Voilà. Et comme on ne peut pas lutter contre les réalités techniques, on fait avec. Nous aussi, on travaille avec, puisqu'on travaille avec le numérique, on travaille, je veux dire, avec des imprimeurs qui font du numérique, on travaille aussi avec de l'offset. Donc, les techniques, elles évoluent. On n'en est plus à la brouette. Donc, on va suivre. Moi, j'ai pas envie de faire du livre numérique, mais bon, après, c'est pas. On va dire que nous aurons affaire à peut-être deux cibles. De clientèle, puisqu'il faut parler de cette manière-là, ou de secteur, je sais pas, il y a peut-être pour un roman, une espèce de pavé, ce sera très pratique d'avoir une tablette. Pour lire de la poésie, ça me paraît un peu plus. C'est tellement froid un écran que on a du mal à imaginer, parce que. Les gens le disent sans arrêt, ça, comme moi qui fais encore beaucoup de salons du livre. Le plaisir qu'ont les gens à prendre un livre, à l'ouvrir, quelquefois à le découper quand il est encore, parce que chez Fata Morgana, il y a encore des bouquins à découper.
Il faut séparer.
À massicoter, voilà.
Il faut séparer les pages.
Voilà, il faut couper la page avec un coupe-papier. Ben, y a des gens qui. Alors, il y a des jeunes, évidemment, ils découvrent ça, ils n'ont jamais vu ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont connu ça et qui ont un plaisir fou à retrouver ça. Donc, il y a encore ce plaisir du livre, objet, il est là encore. Je pense qu'il ne va pas disparaître du jour au lendemain.
Est-ce qu'un livre, ça a une odeur ?
Ah ben oui. Moi, quand je rentrais, c'était clair. Quand je rentrais dans l'entrepôt, là où étaient les bouquins, là où je travaillais auparavant, chez Fata Morgana, ben c'était... Ça vous prenait à... Et quand on rentre dans une imprimerie, c'est pareil. T'as une espèce d'odeur qui te vient, là. C'est très particulier. Et après, quand on retrouve ça ailleurs, ça, on se dit, ah oui, tiens, c'est vrai, Ça sentait la même chose à cet endroit, ouais, tout à fait. Ben oui, il y a l'odeur, évidemment. L'écran, l'odeur, quelque part, on ne sait pas trop. Hein.
À quand les écrans qui...
Oh ben, ils vont nous sortir ça.
Ils
vont inventer ça, c'est sûr.
Le papier de qualité et la bonne colle.
Ben oui, on...
J'ai envie de revenir aux auteurs et à leur œuvre. Est-ce que il faut dissocier l'auteur de son œuvre ou est-ce qu'il est important donc d'associer le contenu, par exemple, d'un livre et l'auteur qui l'a écrit ? Est-ce que c'est important de les dissocier ? Est-ce qu'il y a une relation ? Est-ce qu'on apprécie ?
C'est une question qui me pose d'énormes problèmes. Parce que personnellement, j'ai beaucoup de difficultés, par exemple, à défendre quelqu'un comme Céline, qui a écrit des horreurs. C'est... Voilà. Il y a des choses... J'ai pas de réponse définitive.
Est-ce qu'on peut lire, par exemple, Voyage au bout de la nuit, en ignorant qui était Céline, ce qu'il a dit, fait, comment il s'est positionné.
On peut lire Voyage au bout de la nuit parce que c'est ce qu'on appelle le premier Céline. N'empêche qu'aujourd'hui, j'ai du mal à... Voilà, et puis je passe sans doute pour un abruti, mais j'ai du mal à faire l'apologie de Céline. Voilà, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Je veux dire, quand on écrit Bagatelle pour un massacre et quand on s'enfuit... en 45 avec tous les dignitaires collabos en Allemagne, ou oui, je crois que c'est en Allemagne qu'il est parti. Disons que j'ai un peu de mal avec ce genre d'attitude. quelque écrivain que ce fût. Céline, bon, je parle de Céline, je pourrais en citer d'autres.
Petit exemple.
Oui, je vais pas, c'est pas ma tête de turc. Donc, dissocier l'œuvre de l'écrivain, personnellement, j'ai du mal. Je sais que beaucoup défendent cette idée-là. C'est l'œuvre qui compte avant tout. Mais moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal avec cette réponse-là. Et on peut être à la fois peut-être un salaud et un bon écrivain. C'est ça qui est malheureux à dire. J'aurais envie de conclure avec un mot de Joyce. J'y reviens parce que c'est quand même une espèce d'obsession pour moi.
Vous le resituez,
Joyce ? Il a la chance. Ouais, Joyce, 1880-1941, à peu près. Il est mort en 41. Il a eu la chance de ne pas connaître, ou très peu, la Deuxième Guerre mondiale. Il a fini ses jours quasiment en France, à Saint-Gérand-le-Puy, dans l'Allier. Et il est parti en Suisse. Le dernier mois, il est mort après. Il a eu la chance de pas connaître trop la Seconde Guerre mondiale, mais il avait un mot que j'aimais bien. Alors on peut le prendre dans un sens ou dans un autre. Moi je le prends dans le sens qui m'arrange. Il disait: nous ne changerons pas le monde, changeons de conversation. Donc c'était à la fois d'une très grande sagesse et en même temps, quelque part, on peut considérer que c'est une espèce de fatalisme, et du coup, fatalisme, bon, c'est-à-dire que quelquefois, on baisse les bras. Or, je pense qu'il faut, il y a des fois où il ne faut pas baisser les bras, au contraire.
Tout au moins, on ne les lève pas inutilement.
Voilà.
Eh bien voilà, on arrive au bout de notre rencontre avec Patrick Roy. Eh bien écoutez, moi je vous remercie infiniment de m'avoir reçu. J'espère qu'on va faire partager aux auditeurs tout ce qui s'est passé autour de cette table. Les petits bruits que l'on entend, ben, ce sont les bruits du parquet, parce qu'on est dans une vieille maison qui est toute sympathique. La fenêtre est ouverte, il fait très beau. Merci infiniment. Patrick Roy.
Ben, merci Bernard, je peux pas dire mieux.
Merci infiniment, merci Patrick Roy. Je rappelle l'adresse de votre maison d'édition. Il s'agit du Bousquet Labarthe, situé à Bar des Cévennes. Et chers auditeurs, rappelons-nous d'une chose, c'est que la lecture est le seul plaisir solitaire que l'on aime partager. À bientôt sur d'autres chemins particuliers. Where high